Nous étions restés au verset 28, nous reprenons versets 29 et 30. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Nous sommes toujours en pleine contradiction. L'Évangile contredit la manière de faire des hommes, la pensée habituelle des hommes pour leur existence, et donc la pensée des hommes, la pensée naturelle, est empreinte d'égoïsme, est empreinte du mal, du péché. Et le Seigneur nous conduit hors du péché, il nous conduit dans la lumière. Si quelqu'un te frappe sur une joue, ou si quelqu'un te demande quelque chose, donne et ne refuse pas. Voilà, en somme, ce que nous pourrions appeler une charité qui ne tient pas compte soit de l'offense, quand nous recevons un soufflet, n'est-ce pas? Cela signifie quand nous sommes offensés. Hein, si quelqu'un te frappe sur une joue, ça veut dire si quelqu'un t'offense, présente aussi l'autre. Donc c'est une charité qui ne tient pas compte ou bien de l'offense reçue, ou bien du droit à sauvegarder son bien. On veut me prendre ceci, mais c'est à moi, ça, c'est pas à toi. Pourquoi me le prends-tu? N'est-ce pas? Voilà une charité donc qui ne tiendra pas compte de l'offense ou du droit à sauvegarder son bien. Ainsi, la charité enseignée par le Seigneur ne connaît plus les limites ou bien de la riposte, n'est-ce pas, ou bien du droit de posséder, du droit de propriété et du droit de défendre sa propriété. Voilà donc une charité qui outrepasse ces limites-là. La charité divine, par charité nous entendons l'amour de Dieu en exercice, eh bien, elle outrepasse toutes les limites, elle est sans bornes, comme l'amour de Dieu dont cette charité est l'expression. Si un disciple de Christ se voit cependant obligé d'opposer un refus à une demande qui lui est faite, ce n'est pas, ce ne doit pas être, par un réflexe de mécontentement, ou pour une sauvegarde de ce qu'il possède, mais s'il refuse quelque chose, il faut que ce soit encore par charité. Il est évident, n'est-ce pas, que le Seigneur ne dit pas de satisfaire les demandes exorbitantes, et notamment les demandes qui, une fois satisfaites, entretiendraient chez celui qui demande le péché, l'envie ou toutes sortes d'autres mauvaises choses. N'est-ce pas? Ne dénaturons pas les enseignements du Seigneur Jésus qui sont donnés sous une forme percutante, mais une forme simple. Bien entendu, le Seigneur Jésus ne dit pas de donner ce qui pourrait même être au désavantage et pour le malheur de celui qui exige. Si par exemple on vous demandait, n'est-ce pas, quelqu'un vous demandait un poisson, n'est-ce pas, que vous une substance nocive que vous détenez pour un certain usage, n'est-ce pas, elle vous demanderait et vous auriez la crainte que ce quelqu'un ne s'en serve pour mal faire, vous n'allez pas le lui donner, bien sûr, n'est-ce pas. Et si vous ne le lui donnez pas, c'est parce que vous usez alors d'une charité éclairée, mais ce n'est pas parce que vous voulez garder à vous votre bien. N'est-ce pas? Voilà ce qu'il y a dans ce principe évangélique. La charité a donc, si vous voulez, je disais tout à l'heure que la charité est sans limite, c'est surtout l'abnégation qui est sans limite. Vous savez ce que veut dire abnégation? C'est le renoncement à soi. Eh bien, cette abnégation est sans limite. Mais on pourrait dire que la charité elle-même est sans limite, mais qu'elle a tout de même des limites, Et quelles sont ses limites? Ses limites, c'est elle qui les fixe elle-même. C'est-à-dire que la charité a pour limite la charité elle-même. Si je m'arrête de donner à quelqu'un, si je refuse à quelqu'un, c'est parce que la charité me commande de refuser à quelqu'un. Il m'est arrivé, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, d'avoir des demandes de personnes, même dans l'Église, n'est-ce pas, des demandes d'argent, par exemple, n'est-ce pas, demandes d'argent, excessives. De la part de personnes qui disposaient d'un revenu suffisant pour vivre, mais qui dilapidaient, mais qui se servaient de cet argent en mauvaise part, n'est-ce pas, pour se procurer des plaisirs, pour s'évader même de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, ces demandes d'argent ne pouvaient pas être satisfaites. Vous voyez, la charité a donc pour limite la charité elle-même. Vous comprenez, n'est-ce pas, quand je dis cela, la charité elle-même. Voilà, c'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Ne refusez pas quand la charité vous dit ton frère qui te demande quelque chose a vraiment besoin de ce quelque chose. Et s'il te prend quelque chose, il t'emprunte quelque chose, eh bien, c'est parce qu'il en a besoin, un besoin réel. Et si tu ne satisfais pas ce besoin, eh bien, ton frère va manquer du nécessaire, n'est-ce pas? Alors, là, la charité commande de donner et de ne pas refuser. Ce principe évangélique qui consiste à ne pas répondre à l'offense par une autre offense ou par une riposte, n'est-ce pas, et qui consiste aussi à laisser prendre à un autre ce dont il a besoin et qui nous appartient, eh bien, dans ce principe, il y a l'abandon du moi. Il y a là l'annihilation de tout égoïsme. Abandon du moi. La personne ne regarde pas, le vrai chrétien ne se regarde pas lui-même, ne regarde pas ses intérêts. C'est ce que Paul d'ailleurs nous dira. Ne cherchez pas vos intérêts, mais cherchez l'intérêt des autres. L'abandon du moi, qu'il s'agisse d'une offense reçue, qu'il s'agisse d'un vêtement, qu'il s'agisse de quelque chose qui soit notre propriété. Ces versets nous fournissent donc un principe qu'il ne faut pas, dont il ne faut pas faire un précepte à prendre à la lettre, n'est-ce pas? Alors là, ce serait retomber dans le pharisaïsme, un précepte qui, par exemple, inviterait tous les violents et tous les voleurs à dépouiller et à maltraiter les malheureux disciples de Christ. C'est un principe qui écarte le sens aigu, égoïste de la personnalité et de la possession, et de la propriété. Son application, donc, doit être une chose ressentie par le cœur. Il faut que le cœur du chrétien mette à l'application de ce principe toute sa lumière, tout ce qui l'éclaire intérieurement. Nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament deux exemples, notamment, où l'acceptation, tant d'un côté par le Seigneur Jésus lui-même que d'un autre côté par l'apôtre Paul, l'acceptation n'a pas été complète, n'a même pas été, n'est-ce pas? Voyez, alors, cela nous montre que le principe qui est énoncé ici doit être tempéré par une claire vision des choses, n'est-ce pas? Des circonstances. C'est par exemple dans Jean 18, 23, 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Voyez là, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas une acceptation d'office, si vous voulez, d'un soufflet, n'est-ce pas, Donc, l'enseignement que Jésus a donné dans le sermon, ce sermon de Luc, dans la plaine, ou le sermon sur la montagne, dans Matthieu, n'est-ce pas? Eh bien, cet enseignement doit être naturellement compris et adapté à toute circonstance selon une véritable charité, une charité consciente, naturellement. Pourquoi me frappes-tu? Il est évident qu'on ne peut pas encourager, par exemple, n'est-ce pas? Là, on était dans le peuple de Dieu, dans le peuple juif, n'est-ce pas? Et dans l'Église, par exemple, on ne peut pas encourager un frère offenser un autre. N'est-ce pas? Si un frère a offensé un autre, il est évident, n'est-ce pas, que l'offense doit quand même lui être reprochée. Mais il n'y aura pas, évidemment, la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, Jésus l'a écartée, n'est-ce pas? S'il y a une offense, il peut y avoir, n'est-ce pas, une nécessité de redresser l'offenseur, mais il ne faut pas qu'à l'offense réponde une autre offense. Et puis, nous avons dans Actes 23, verset 2, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, frapper l'apôtre Paul, qui était accusé. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Mais enfin, vous voyez là, n'est-ce pas, que on frappe l'apôtre Paul, lui aussi, n'est-ce pas, comme on a frappé le maître, et il réplique, n'est-ce pas, il ne va pas frapper à son tour, mais enfin, n'est-ce pas, il réplique, et cela est encore selon la charité. Pourquoi me frappes-tu? Il y a dans la loi, n'est-ce pas, quelque chose qui t'interdit d'user de cela, n'est-ce pas? Alors, je vous dis ces réserves, ce n'est pas pour affaiblir, bien entendu, on n'est pas du tout l'idée, le commandement du Seigneur Jésus, le principe évangélique, mais c'est pour écarter toutes les interprétations basées sur uniquement la lettre, n'est-ce pas, et qui se font sottement rigoureuses, n'est-ce pas, le Seigneur a dit cela, il faut faire cela, il faut le faire avec intelligence, bien entendu. Au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Il s'agit, selon ce principe, de traiter le prochain comme un second soi-même. Un second soi-même, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Un second soi-même. Mais, bien entendu, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Alors, ce que vous voulez que les hommes fassent, il ne peut s'agir là que de choses absolument raisonnables. Hein? Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, par exemple, si moi, n'est-ce pas, j'aime à ce que les autres m'aident à satisfaire des désirs coupables, je vais me prêter aussi à ce que les mêmes désirs coupables soient satisfaits chez les autres. C'est pas ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? Il ne peut s'agir là que de désirs raisonnables, de désirs qui sont dans, selon la morale chrétienne, n'est-ce pas, selon l'Évangile. Ce n'est pas là une simple morale. Évidemment, la morale peut dire « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fie à toi-même », n'est-ce pas? Alors, voilà le principe de la morale, mais c'est différent. C'est différent. Si la morale des hommes, en dehors de l'Évangile, énonce cela, « Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fie à toi-même », ce n'est pas le principe de l'Évangile, ça. Il faut faire attention, n'est-ce pas, que la morale, quand ça devient la morale des hommes, ça peut être assez bon, n'est-ce pas? Mais attention, ça n'a pas du tout la même portée, la même valeur que le principe évangélique énoncé par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une simple morale, parce que faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît à vous-même, n'est-ce pas? Bon, eh bien ça, c'est donné comme une règle de bonne relation, de bon rapport entre les hommes, n'est-ce pas? C'est une morale assez satisfaisante. Mais attention, faites à autrui ce que vous voudriez, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même? Ah, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même? Le verset biblique, lui, le verset du sermon de Jésus, s'appuie sur la loi de Dieu. Ce que ne peut pas faire l'équivalent, ou si vous voulez, le principe moral que je viens de rappeler. Hein? Il faut que ce verset, ce principe évangélique, continue de s'appuyer sur la loi de Dieu. Et ce principe est proposé à des enfants de Dieu, c'est-à-dire à des gens qui sont pauvres en esprit, non pas à des orgueilleux du monde. N'est-ce pas? Voyez-vous, comme il y a une différence entre la morale du monde, même si cette morale semble être l'écho de l'Évangile, il y a une grande différence entre cette morale et la parole de Dieu. Ici, Jésus propose ce principe, et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, n'est-ce pas, faites-le de même aux autres, il propose ce principe à des enfants de Dieu, à des disciples, à des pauvres en esprit, en somme, il propose cela à l'esprit et non pas à l'homme naturel, c'est-à-dire à la chair. Tandis que la morale, elle parle à la chair. Elle parle à des gens qui sont inconvertis, qui ne cherchent pas nécessairement, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, le salut, le pardon de leurs péchés. Elle parle à des hommes pour essayer de les tenir dans un certain comportement social, n'est-ce pas? Tandis que ici, le principe de Christ s'adresse à l'esprit de personnes qui sont éclairées, qui sont des enfants de Dieu. Alors, ce principe attend son application de la foi, de la mise en œuvre de l'amour divin dont le cœur du disciple de Christ doit être rempli. Donc c'est donc l'esprit éclairé du disciple, c'est l'amour divin qui est dans son cœur qui vont faire application de ce principe. C'est tout différent. Ne pas nuire à autrui, ne pas le blesser, ne pas le priver de ce qu'il a, c'est bien, mais c'est très insuffisant. Dieu demande de faire à autrui le bien. Le bien que tu veux qu'on te fasse à toi, ce bien-là, ce même bien, tu le fais à autrui. Mais quel est le bien qu'un disciple de Christ éclairé va-t-il vouloir qu'on lui fasse à lui? Eh bien, il va vouloir qu'on l'aide. Il va vouloir que l'on soit charitable à son endroit. Il va vouloir qu'on use à son égard de tout ce que l'Évangile nous apprend sur le compte de la charité, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il va faire aux autres. C'est ainsi que Dieu fait, en somme, de ses enfants, ou Jésus fait, si vous voulez, de ses disciples, les dispensateurs de la miséricorde divine. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous voulez la miséricorde, sous toutes ses formes, sous toutes ses applications, vous voulez cela pour vous. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire pour les autres aussi. Heureux les miséricordieux, nous retrouvons, n'est-ce pas, une équivalence avec cela, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, inversons, si vous voulez obtenir miséricorde vous-même, eh bien, soyez miséricordieux aussi pour les autres. En résumé, nous pouvons dire que la croix nous sauve, mais la croix nous apprend aussi à sauver les autres. Et la croix attend de nous que par la croix nous sauvions les autres. La croix nous sauve, c'est bien, c'est fait à nous-mêmes, ça. Mais la croix nous sollicite pas d'apprendre à sauver les autres. Et la croix est donc vraiment le triomphe de l'amour. Au verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Quelle chose merveilleuse. Si vous aimez ceux qui vous manifestent leur amour par toutes sortes de prévenances, par désobligeance, par un grand dévouement, ben c'est pas difficile. Ce n'est pas difficile de les aimer, ces gens-là. Mais en les aimant, dans le fond, analysons bien le mouvement du cœur, en les aimant, vous vous aimez vous-même. Vous aimez ceux qui constamment vous font du bien. Pas, il y a des personnes, par exemple, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas vivre sans quelqu'un là qui est là, une personne dévouée qui est là à côté d'eux. N'est-ce pas, j'ai encore vu récemment, n'est-ce pas, ah, elles sont inquiètes, elles sont ennuyées, elles exigent même souvent que la personne qui s'occupe d'elles, n'est-ce pas, soit là, veulent la savoir là auprès d'elles. Il y a là, n'est-ce pas, un égoïsme. Évidemment, c'est le fait souvent de personnes qui souffrent, de personnes qui sont malades, bien sûr, mais enfin, tout de même, n'est-ce pas, il y a là un égoïsme. Alors, le Seigneur nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent, ceux qui vous manifestent vraiment tant de prévenances, n'est-ce pas, eh bien, vous ne faites rien de spécial. Si vous faites du bien même, vous allez jusqu'à faire du bien à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Vous rendez la pareille, mais c'est bien faible devant l'Évangile, cela. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, vous prêtez à des gens sûrs, vous prêtez à des gens, vous savez, vous êtes tranquille, vous savez que dans tant de temps, ils vous rendront cela, n'est-ce pas ? Vous ne faites rien d'extraordinaire, parce que les païens, qui ne sont pas sous l'empire de la loi de Dieu, qui ne sont pas, eux, éclairés par l'Évangile dans leur cœur, les païens en font autant, pour simple raison d'intérêt, ou pour simple raison humaine, n'est-ce pas ? Alors, il faut faire tout autre chose que cela. En somme, n'est-ce pas, l'homme naturel présente par bien des côtés certains caractères qui peuvent être trouvés dans l'Évangile, caractère des principes évangéliques, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, mais attention, c'est limité. La chair, c'est-à-dire l'homme naturel, aime qu'on la soigne, et les affections de l'homme naturel sont souvent le retour vers ceux qui se montrent eux-mêmes dévoués, utiles, des gens sûrs, n'est-ce pas ? On l'a dit quelquefois, on aime prêter à plus riche que soi, parce qu'on est sûr que ça va revenir. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut trouver chez l'homme naturel. Mais le Seigneur veut bien plus que cela. L'amour de Dieu doit être, lui, désintéressé et ne pas analyser, scruter chez l'autre la raison, n'est-ce pas, la raison de notre geste, si vous voulez, de notre geste, du bien que nous allons faire, n'est-ce pas, de notre attitude. Il ne faut pas en trouver la raison chez l'autre. Il faut qu'il y ait chez nous, n'est-ce pas, un comportement charitable à l'adresse de n'importe qui. L'amour de Dieu est désintéressé, indépendant de ce qui a été reçu ou de ce qui n'a pas été reçu. L'amour de Dieu doit donc s'exercer à l'égard de toute personne, et même de personnes qui ont agi contrairement à l'amour, des ennemis. Des personnes qui ont agi contrairement à la bonne relation entre personnes humaines, entre créatures humaines, qui ont agi contre l'amour, et qui se sont laissées même guider par le mal, n'est-ce pas, qui nous ont offensés, blessés, qui nous ont fait toutes sortes de choses, n'est-ce pas, regrettables et désagréables, et bien même vis-à-vis de ces personnes-là, il faut agir selon la charité, selon l'amour. L'amour divin ne peut pas être un retour. Dieu ne veut pas cela. Alors si l'amour divin était un retour, jamais Dieu ne nous aurait aimés. Mais il nous a aimés le premier, est-il dit, n'est-ce pas, le premier. C'est-à-dire, il a aimé des ingrats, des impies, nous dit l'Écriture, des gens révoltés contre lui. Il nous a aimés le premier. Eh bien, donc l'amour divin est un amour qui ne s'exerce pas comme un retour vers celui qui a aimé. Non, l'amour divin est en premier. Dieu nous a aimé le premier, l'amour divin est donc en premier. Et l'amour ne fait pas de calcul. Il est inconditionnel. Et cet amour aura une récompense, car tout doit avoir une conséquence. Mais la récompense est une conséquence. N'est-ce pas ? Mais la conséquence ne va pas se présenter dans le temps actuel. Parce que si la conséquence, si Dieu permettait, n'est-ce pas, que il y a certaines conséquences qui se présentent, mais si la récompense vraiment, n'est-ce pas, de l'amour, d'un comportement qui est selon l'amour de Dieu, inspiré par l'amour de Dieu, si vraiment la récompense se présentait dans ce temps-là, alors, n'est-ce pas, vous savez comment est l'homme, il aurait eu vite fait, lui, d'accrocher les manifestations de son amour, n'est-ce pas, à l'attente de la récompense. Il dirait, oh, je sais que si je fais ça à cette personne, je sais que j'en aurai en retour ceci ou cela. Voyez-vous ? Oh, mais Dieu connaît bien le cœur humain. Alors il a dit, tu n'attendras rien dans ce temps-là. Tu feras, n'est-ce pas ? Tu seras charitable. Mais tu auras une récompense, car il faut, tout est juste selon la justice, mais elle te sera donnée dans le ciel. Ta récompense sera grande dans le ciel. Dans le ciel. À ce moment-là, n'est-ce pas, tu seras dans la perfection. À ce moment-là, tu n'auras plus devant toi ni des ennemis, ni des gens mal intentionnés, ni des gens pécheurs. Tu ne seras plus toi-même pécheur. Tu seras dans la perfection. Tout le monde sera dans la perfection. Tout le monde exercera le parfait amour divin, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, tu auras ta récompense. Mais pas avant. Enfin, on peut dire que l'amour est la clé de tout témoignage, de toute œuvre, de toute évangélisation. Ah, comme on aurait besoin de le réapprendre, cela, aujourd'hui. C'est lui qui entraîne la puissance de l'Esprit de Dieu dans toute dispensation de l'Évangile, de la parole de Dieu, de l'Évangile. Il s'agit d'attirer des âmes, il s'agit d'appeler des âmes au royaume de Dieu, c'est ça notre travail. D'annoncer le royaume de Dieu, de manifester les signes pour amener des âmes à Christ au royaume de Dieu. Chers amis, sans l'amour, c'est zéro. Sans l'amour, c'est travailler avec de la paille, bâtir avec de la paille, avec du foin. Ben, dès qu'arrive l'épreuve, ça flambe. On peut quelquefois, n'est-ce pas, attirer des gens. Il y a des sectes qui ont pas mal d'adeptes. Ils attirent des adeptes, n'est-ce pas? Ce n'est pas le véritable amour divin, car le véritable amour divin n'a place que là où la vérité est d'abord établie. Là où la vérité est établie, là, l'amour divin. Ne parlez pas d'amour si vous n'avez pas fait place à la vérité. Car alors, vous avez écarté ce qui sanctifie. Vous avez écarté ce qui sauve. Je vous affranchirai, la vérité vous affranchira, sanctifie-les, dit le Seigneur Jésus, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Il faut d'abord mettre la vérité en place. Hein? Et puis alors, l'amour, là, n'est-ce pas, de Dieu se manifeste là où la vérité est mise en place. L'évangile vient avec ça. Vérité, c'est lui qui apporte la lumière, alors l'amour est là. L'amour est la clé, mais l'amour est l'associé de la vérité.